Bonsoir à toutes et à tous, c'est Du Grain à Moudre d'été, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le constat est unanime. La France souffre désormais d'une fracture territoriale quasi irréductible. Le thème n'est pas nouveau, mais les dernières élections ont apporté une illustration caricaturale. Les cartes électorales, que ce soit pour le vote ou l'abstention, montraient l'opposition entre un pays du centre et un pays des marges, entre une France qui gagne et une France périphérique, pour reprendre les termes du Premier ministre lors de son discours de politique générale. C'est pour y remédier que la Conférence nationale des territoire s'est ouverte aujourd'hui au Sénat. Promesse du candidat Macron, il s'agit de mettre en place une nouvelle instance de dialogue et de retrouver la confiance perdue entre l'État et les collectivités territoriales donc. Dans un contexte difficile de suppression de la taxe d'habitation et de réduction budgétaire, le gouvernement vient de rehausser de 10 à 13 milliards les contributions locales en matière d'économie. On a donc d'un côté un objectif politique et démocratique fort, de l'autre une ambition économique et administrative non moins forte, difficile encore de voir comment les deux peuvent cohabiter. Les territoires peuvent-ils nous sauver? C'est la question du grain à moudre d'été, à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr. Et trois invités pour nous en parler ce soir. Ils nous arrivent directement du Sénat. Michel Lussault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe et vous étiez là présent à la conférence des territoires en tant qu'expert. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre Hyperlieu, les nouvelles géographies de la mondialisation. C'était publié au Seuil en septembre 2016, je crois.
Février 2017.
Février 2017, c'est encore plus récent que, voilà. Que ce dont je me souvenais. À côté de vous, Florence Omna, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter pour Le Monde. Vous avez couvert notamment la campagne présidentielle et la campagne législative en faisant une série de reportages un peu partout en France. Vous avez sillonné le pays. Vous l'aviez déjà fait par le passé. Ça avait donné lieu à un livre en France en 2014 qui avait été publié aux éditions de l'Olivier. Et enfin, en duplex depuis Valence, Christophe Chevalier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du groupe Archer, à l'initiative notamment, vous êtes à l'initiative notamment de Start-up de territoire. C'est une initiative lancée il y a un peu plus d'un an, qui est une sorte de plateforme, hein, de mise en relation entre les entreprises et les acteurs locaux, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne?
C'est plutôt une mobilisation de l'ensemble des acteurs d'un territoire, parce que quand des chefs d'entreprise, les pouvoirs publics, des salariés, des chômeurs, les gens qui habitent le territoire se mettent ensemble et décident de la manière dont ils veulent mettre en place les entreprises dont ils ont besoin, ben ça donne quelque chose d'assez intelligent. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a testé à Romans-sur-Isère, à côté de Valence, et qui se déploie aujourd'hui dans d'autres villes de France.
Donc on l'entend évidemment, vous êtes d'accord avec cette nécessité de déconcentrer, de décentraliser la décision, de se rapprocher finalement au plus proche des territoires, à la fois pour le développement économique et peut-être aussi pour les enjeux démocratiques. Mais puisqu'on a la chance d'avoir Michel Lussault dans ce studio qui était aujourd'hui au Sénat, je le rappelle, pour le début de cette conférence des territoires. Je voulais vous poser une question, peut-être tout simplement de savoir quelle était l'ambiance. On a dit une ambiance assez tendue entre des élus locaux à qui on demande toujours plus d'efforts et peut-être le gouvernement, l'État qui continue de vouloir réorganiser les choses. Est-ce que, selon vous, la méthode de cette conférence des territoires est la bonne, Michel Lussault?
Ah, question difficile. Ambiance sans doute tendue, mais aussi l'impression peut-être un peu désagréable d'avoir assisté à une sorte de jeu de rôle, enfin de théâtre un peu suranné, où le Sénat qui s'autoproclame représentant des territoires dialoguerait avec l'État avec un E majuscule qui jure son grand Dieu qu'il ne peut plus tout faire, mais quand même entend bien montrer le cap. Et peut-être le sentiment que s'il y a des difficultés territoriales, ce qui n'est absolument pas niable, tout simplement parce que nous avons vu depuis 30 ans de tels bouleversements de nos sociétés, de nos espaces de vie. Nous avons constaté depuis 20 ans une telle accentuation des inégalités sociales. Nous avons eu à vivre de tels ébranlements de nos certitudes. Nous, petits pays persuadés depuis si longtemps d'avoir un modèle absolument à la fois original et universel, nous confrontons à un vaste monde auquel nous continuons de ne pas comprendre grand-chose. Eh bien, s'il y a des difficultés, peut-être aussi l'impression qu'elles ne seront pas réglées dans ce genre de grand-messe. Voilà. Peut-être que il serait temps que le personnel politique comprenne que ce dont souffre un certain nombre de concitoyens, ça n'est pas forcément de n'être plus connecté au monde, mais peut-être de ne plus avoir la voix au chapitre ou de ne pas avoir la voix au chapitre. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, pour penser l'avenir des espaces de vie français dans un pays qui se mondialise de plus en plus, et ça ne va pas s'arrêter d'un claquement de doigts, qu'est-ce qui rendrait possible l'investissement direct de chaque individu recouvrant ou retrouvant une citoyenneté non réduite à l'exercice du droit de vote, qui s'approprierait ces questions de territoire et qui considérerait finalement que c'est là où peut-être on peut réinventer du commun, sans passer par ce genre de messe qui devrait
se réitérer tous les 6 mois. C'est un peu plus qu'une messe, disons que c'est
un lieu de rencontre. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi un symptôme d'un certain épuisement de notre système politique français qu'il faille tous les 6 mois
Michel Lussault.
Une rencontre entre l'État et les collectivités. Enfin, ont-elles vraiment besoin, ces grandes personnes, de cela pour se rencontrer? Voilà. Moi, ce qui me frappe, c'est surtout que les citoyens ne rencontrent plus leur citoyenneté.
Christophe Chevalier, une question aussi sur ce qu'on peut attendre, selon vous, de ce type de rencontre. Est-ce que vous êtes un peu sur la même ligne que Michel Lussault? C'est-à-dire, finalement, les choses se passent peut-être ailleurs aujourd'hui que dans cette rencontre entre les représentants territoriaux et l'État avec un grand E?
Moi, je suis un praticien et peut-être ce que j'ai envie de dire en premier, c'est que les territoires ont besoin qu'on leur parle, mais aussi et surtout, ils ont besoin qu'on les écoute. Et puis, quand on parle de territoire, effectivement, ça comprend les élus, mais pas que. Les territoires, c'est nous, c'est les gens qui vivent, c'est les hommes et femmes qui vivent dans ces territoires. Et c'est eux, aujourd'hui, qui sont souvent absents, oui.
Florence Sauvenat, justement, vous allez vous à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui habitent les territoires. Je finis donc mon tour de table avec vous, avec votre expérience finalement de grand reporter. Est-ce que vous avez le sentiment que ce type de grand-messe, pour reprendre l'expression de Michel Lussault, est de nature à résoudre, à réduire, peut-être pas à résoudre, mais en tout cas à réduire un petit peu la fracture qu'on constate sur le territoire?
Je me demande si c'est vraiment fait pour ça, d'ailleurs. Je pense plutôt que c'est fait comme un mode d'affichage, pour dire, voilà, on s'en occupe, on prend les choses au sérieux, et voilà, on se met autour d'une table et on fait tous les signes pour montrer qu'on va faire quelque chose. Mais ni les mesures dont j'ai entendu parler jusqu'à présent, évidemment la conférence n'est pas terminée, j'ai pas envie de parler trop vite, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des annonces extraordinaires et qui allaient changer la situation. C'est tout simplement pour dire, voilà, c'est ce genre de choses, vous avez entendu, enfin j'imagine, hein. Mais je pense pas que ce soit ni suffisant ni le bon moyen. C'est-à-dire que souvent, toutes ces politiques d'affichage, elles provoquent l'effet inverse. C'est-à-dire que les gens qui vont entendre ça à la radio, le voir à la télé, dans une petite bourgade, une ferme isolée ou Dieu sait où, vont se dire « on se moque encore de nous ». Et je crains que ça ne veuille montrer une bonne volonté et que finalement, ça n'aboutisse à l'inverse. Au contraire, ça y est, encore toujours les mêmes qui font semblant d'eux. Parce que ce faire semblant, on nous prend pour des imbéciles. Enfin, on connaît tous ce refrain et il est réel. Hein. C'est quelque chose de terrible en ce moment. Et donc... J'ai peur que ça n'arrive à l'inverse.
À l'effet inverse. Pourtant, Michel Lussault, la réforme territoriale, c'est un moteur politique fort dans la politique française, sans remonter ou remontant aussi plutôt aux lois de fer au début des années 80, Raffarin au début des années 2000, lors du dernier quinquennat, il y a une grande réforme territoriale, à chaque fois avec des ambitions qui mélangent des ambitions, on va dire, administratives, mieux organiser l'administration de la France, et des ambitions très politiques et économiques. Réduire les inégalités, est-ce que c'est tout simplement ça, si on a besoin de le refaire à chaque fois, c'est que ça ne marche pas, qu'on ne peut pas mener de front finalement les deux objectifs?
La réforme territoriale, on pourrait même remonter à celle de 1789, c'est un des premiers actes de la Constituante. Bon, mais nous sommes quand même dans un autre contexte que 1789, et la multiplication des tentatives de réforme territoriale depuis 20 ans devrait quand même nous pousser à réfléchir à la question suivante. Pourquoi faut-il revenir en permanence sur cette réforme territoriale qui a l'impression, qu'on a l'impression qu'elle est toujours inaboutie? Peut-être parce qu'on s'y prend mal. Je vais prendre deux exemples. Moi, je suis très méfiant en tant que géographe par rapport à cette question de la fracture territoriale. Parce que je pense en fait que, prise d'une certaine façon, la fracture territoriale, ça exprime surtout une certaine paresse de la pensée. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense que l'évolution des espaces de vie a été tellement intense qu'elle a brouillé absolument toutes les cartes de la géographie, de la géographie administrative, et que ce que l'on constate lorsqu'on observe la situation française, et Florence Aubenas le fait, ou Raymond Depardon, à sa manière, le fait aussi dans sa série photographique, eh bien, c'est beaucoup plus complexe qu'une fracture territoriale qui pourrait être, comme le prétend Christophe Guilly, très facilement cadrée. En réalité, j'allais dire qu'il y a des fractures territoriales partout, c'est-à-dire que la pauvreté, le dénuement peuvent apparaître partout. Vous allez tout près d'ici à Paris, tout près de la station de métro Château d'Eau, vous n'êtes pas à quelques hectomètres de cette station dans les quartiers les plus pauvres de Paris, et autour de la station, vous avez une sorte de fenêtre ouverte sur un certain type de pauvreté urbaine. Et à l'inverse, vous avez des espaces ruraux qui sont considérés comme des espaces à l'écart, qui, eux, vont très bien, où il y a une très forte dynamique touristique, où il y a une très forte dynamique agricole, où il y a de la créativité, de l'inventivité. Donc moi, je plaide déjà pour qu'on établisse un vrai diagnostic partagé de ce qu'il en est des espaces de vie, mais partagé avec toutes les parties prenantes. Je reprends ce mot qui n'est pas très élégant en français, partie prenante. Un stakeholder, c'est l'équivalent, la traduction. Mais parce que notre correspondant tout à l'heure de Valence l'a dit, sur les territoires, il n'y a pas que les élus et les services de l'État, la chambre de commerce et les responsables d'associations. Toutes les parties prenantes, ça veut dire potentiellement tous les citoyens. Donc, quand va-t-on pouvoir déjà diagnostiquer ce qu'il en est de ces inégalités géographiques qui, évidemment, sont importantes pour la vie de tous les jours, mais qui prennent des aspects très différents à Ouistreham, à Marseille, à Lyon, à Paris.
Deuxième référence à un grand reportage de Florence Aubenas.
Deuxième remarque, il y a une chose très intéressante dans ce que Emmanuel Macron a dit cet après-midi. Il a fait un discours très, 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 très maîtrisé, très rusé, très doux, avec quelques grosses ficelles et puis des choses intéressantes. Il a dit il faut pouvoir expérimenter. Ça, c'est très intéressant. Mais, alors là, on revient aussi à notre ami en duplex.
On
n'expérimente pas simplement avec les élus. L'expérimentation dans les territoires, ça veut dire que tout le monde doit avoir la capacité d'expérimenter. Et alors là, moi, j'aurais envie que l'on me dise, du côté de l'État, ça veut dire quoi pour l'État et les collectivités de laisser les citoyens expérimenter?
Christophe Chevalier, je rappelle que vous êtes le président du groupe Archer, que vous avez été également à l'initiative de start-up de territoire et que donc, à ce titre-là, vous regardez les lieux où on expérimente. D'abord, deux questions. Est-ce que vous ne trouvez ces lieux que dans les centres-villes ou est-ce que c'est réparti de manière plus équitable sur le territoire, comme vient de nous le dire Michel Lussault? Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez attendre quand le président Emmanuel Macron vous dit « on va tenter de faciliter l'expérimentation ».
Et là-dessus, moi, je voudrais revenir sur un truc qui nous semble important, c'est que l'enjeu des territoires, c'est un enjeu éminemment politique, c'est vraiment l'enjeu du vivre ensemble. Et nous, ce qu'on pense, c'est que les grands enjeux sont devant nous, ne sont pas réglés. Les enjeux du chômage, on en parle peut-être même pas assez. On peut pas accepter que pendant des générations encore, il y ait 5-6 millions de personnes qui ont pas une place dans les échanges économiques. Il y a des enjeux de la pollution. Comment on peut imaginer qu'il y ait certaines villes de France où on demande aux gens qui sont asthmatiques de pas circuler ces jours-là? Les enjeux de lien social. Et ce qu'on pense, c'est que devant ces difficultés qui sont de plus en plus complexes, il n'y a plus un acteur qui peut décider seul et résoudre le problème. C'est-à-dire qu'avant, on se disait, il y a un problème, l'État va faire une loi. Il y a certaines entreprises qui disent, laissez-nous faire, vous verrez, si on arrête de donner des règles, tout sera réglé. Et puis, les citoyens aussi peuvent agir en consommant autrement, etc. Et ce qui semble aujourd'hui, c'est que les solutions à trouver sont devant ces difficultés qui sont complexes demandent un changement de comportement de l'ensemble de ce que Michel appelait les parties prenantes. Et c'est tous ensemble que parfois, à l'échelle de l'endroit où on se parle, et c'est pour ça que le territoire, on parle des territoires, parce que c'est là qu'on peut se parler, c'est là qu'on vit, c'est là qu'on amène nos enfants à l'école et qu'on rencontre les autres. C'est à cette échelle-là, parfois, qu'on peut imaginer ensemble des solutions à des problèmes qui sont complexes et qui ne peuvent pas se résoudre à travers une loi.
Alors concrètement,
alors après,
Christophe Chevalier...
Des centres-villes,
non, je voulais dire... C'est... Oui, pardon, allez-y, je vous en prie sur les centres-villes.
Non, mais est-ce que c'est des centres-villes? Cette notion... Enfin, je pense que la notion de territoire, il faudrait demander aux géographes, mais que ça appartienne pas à des zones administratives ou autres. C'est là où les gens se reconnaissent habitants un même territoire, justement.
Le géographe opine du chef, mais je voulais juste rester deux secondes avec vous, Christophe Chevalier, pour avoir un exemple concret de ce que vous venez de nous dire. Concrètement, j'imagine que vous n'avez pas attendu aujourd'hui pour penser cette nécessité de faire valoir les parties prenantes dans l'émergence des territoires. Vous, comment est-ce que vous voyez ça, par exemple, dans votre région de l'Isère ou ailleurs sur le territoire? Comment est-ce que vous avez vu ça émerger?
Deux petits exemples, à Romans-sur-Isère, c'était la capitale de la chaussure du luxe. Cette mono-industrie s'est délitée, a quasiment disparu en 20-25 ans, malgré d'énormes moyens en hommes et en argent envoyés par l'État, etc. Aujourd'hui, autour d'un certain nombre d'entre nous, se reconstruit avec un modèle économique différent, une nouvelle industrie qui est plus artisanale de la chaussure, mais qui permet à chaque personne, des citoyens qui ont mis de l'argent, par exemple, dans notre groupe pour qu'on relance un atelier chaussures, des gens qui font de la formation aujourd'hui et qui refont de la formation, des clients qui achètent nos chaussures. Il y a tout un environnement aujourd'hui qui se reconstruit à partir du territoire, qui a permis à de nouveaux entrants de venir. On part ensemble dans les salons, on a des magasins en commun. Cette idée de coopérer nous permet de tenir alors qu'individuellement on n'y arrivait pas. Et puis le deuxième exemple, c'est que face au constat dont je vous parlais tout à l'heure, on a proposé à des élus, à des chefs d'entreprise, à des chômeurs, à des salariés, enfin à ce qui constitue le territoire, de venir réfléchir un soir aux grands enjeux qui sont devant nous pour s'emparer de ces questions et mettre en place tous ensemble les start-up dont le territoire a besoin pour mieux vivre ensemble, justement. Start-up parce que l'idée, c'était de trouver ensemble des solutions sous des difficultés qui étaient un peu sous-jacentes. Vous savez, parfois, les solutions ne sont pas là, alors on n'imagine pas qu'il peut en avoir une. Et on a travaillé comme ça sur 10 thèmes. Alors la première grande surprise, c'est qu'on voulait qu'il y ait 100 personnes. On est dans un petit bassin de 50 000 habitants et on a dû refuser du monde. On était plus de 250.
Oui, donc il y a une vraie appétence, il y a une vraie volonté aujourd'hui, j'allais dire de se prendre en main, c'est peut-être pas vraiment le bon terme, mais en tout cas de pouvoir avoir joué au chapitre et d'être peut-être partie prenante à la solution. Je vais passer la parole à Florence Omna. Vous aussi, vous avez beaucoup travaillé justement sur ces questions du chômage ou du travail difficile. On parlait du cas de Wistram tout à l'heure. Il y a malgré tout, cette fracture, on la ressent au niveau du travail. Elle n'est peut-être pas réductible, en effet, Michel Lussault, de manière très très aisée. Elle existe tout de même.
Et alors, elle existe, c'est-à-dire que c'est la fracture territoriale, hein, pour l'appeler comme ça. Pour moi, elle se superpose à certains endroits, donc effectivement pas partout, il ne suffit pas d'habiter un petit village pour la ressentir, mais elle se superpose à d'autres injustices et les amplifie. Je pense que les endroits où ça se passe mal, c'est ça en plus. Et alors, c'était très frappant de voir aux dernières élections municipales, par exemple, un certain nombre de petites communes n'avaient pas de candidat à la mairie. Alors, candidat à la mairie, en général, c'est un poste que les gens aiment beaucoup. C'est le premier élu de terrain. C'est un poste très populaire en France. Enfin, je veux dire, on aime son maire. En tout cas, les batailles municipales sont enflammées. Enfin, c'est vraiment un grand moment de la vie électorale française. Et dans beaucoup d'endroits, personne ne voulait se présenter. Et donc, ça a vraiment été un choc. C'était vraiment, j'allais dire, presque la démocratie mise à nu. Parce que personne, dans des petits villages, ne disait, voilà, cette communauté, je ne vois plus comment je peux m'en occuper avec des décisions qui me tombent sur la tête. Alors, c'était pas partout, bien sûr, mais je trouvais que c'était un signe suffisamment important pour révéler cette fracture, en tout cas. Et donc, dans ce qu'il s'en dit, quand vous arrivez dans un un de ces petits territoires qui ne va pas bien, on commence par le chapelet de... en général, l'école a fermé la première. Ensuite, ça a été la station-service. Ensuite, ça a été la boulangerie. Ensuite, ça a été les impôts. Et maintenant, c'est les 6 mois d'attente pour le généraliste, les 1 an pour l'ophtalmo, etc., etc. Et donc, ça existe vraiment. C'est-à-dire que c'est pas des vues de l'esprit. Ce ne sont pas des, ce sont des choses. Et les gens le ressentent. Ce fort sentiment d'abandon, il a aussi lieu, par exemple, dans des villages de champagne où on vit très bien, hein, où on cultive du champagne, où les gens roulent en 4x4, grand format, mais se sentent abandonnés. Donc, ça n'est pas forcément corrélé, à la pauvreté. Donc, et je pense que c'est vraiment quelque chose de réel. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on en parle souvent, on le compare parfois au sentiment d'insécurité, hein, dont on parlait au début des années 2000. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se ressemble, qui fait aujourd'hui écho à ça. Et je pense qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire d'un revers de main, voilà, on a quelques statistiques qui nous montrent que, somme toute, des écoles restent ouvertes, etc. C'est quelque chose qui fragilise beaucoup la France. On l'a vu sur les votes. Hein, beaucoup d'endroits, ça s'exprime par des votes populistes, des votes extrémistes, etc.
Ou par l'abstention
d'abstention massive à d'autres types d'élections, par exemple à la présidentielle, aux législatives, pardon. Et donc vraiment, je pense qu'on ne peut pas simplement se dire, bon, écoutez, c'est pas si grave, il y a d'autres inégalités. C'est vraiment à regarder de très près. Et alors, pour moi, ça marche en même temps avec quelque chose que je trouve très, très particulier à la France aujourd'hui, qui est la grande mutation des populations. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait évidemment l'exode rural, hein, c'est ce qui a fait la France de l'après-guerre. Et aujourd'hui, tout le monde se demande où il va habiter. Et donc, on a une espèce d'idée, alors, est-ce que je vais aller à la campagne ou à la ville? C'est-à-dire, tout un tas de jeunes gens se demandent, qui ont fait des études à la ville, puis finalement, ils vont retourner à la campagne. Des gens qui habitaient Paris se disent, finalement, je vais aller habiter Marseille. Donc, il y a cette espèce de grand déménagement, j'allais dire, des Français, et qui est très frappant. Alors, il est frappant, et j'en aurais terminé pour des choses très différentes, c'est-à-dire qu'il frappe d'abord des gens qui ont peu d'argent, peu de moyens, parce qu'ils vont s'installer dans des endroits où ça va leur coûter moins cher. Ça, c'est à l'inverse de l'exode rural. Et d'autre part, il frappe des gens qui, au contraire, sont cadres, télétravail. Et donc, ça frappe différentes populations. Et du coup, un village, aujourd'hui, n'a plus cette même population homogène qu'elle avait avant. Et les zones rurales sont en train de se reconstituer. Et cette reconstitution, pour moi, est un vrai défi, parce que ça va donner une vie au territoire français tout à fait autre, et j'allais dire qu'on je suis très impatiente de voir ce que ça va donner. Parce que les gens voient les choses très différemment, bien sûr, quand ils viennent des villes, quand ils ne sont pas natifs de là, etc. Et c'est vraiment un moment intéressant, je trouve, sur le territoire.
Et un moment passionnant pour un géographe tel que Michel Lussault. On habite différemment la France, nous dit finalement Florence Somna, Michel Lussault. C'est vrai que ça introduit une notion qui est intéressante, qui est la notion de choix. Florence Somna nous dit on choisit d'habiter à la ville, à la campagne, de faire des allers-retours. Alors j'imagine que c'est pas exactement vrai pour tout le monde, mais majoritairement. Et donc ça contredit un petit peu le côté la fatalité qu'on associe. Tel territoire équivaut à tel type de vote, Michel Lussault. Et ça met l'accent sur ce qu'a dit cet après-midi Emmanuel Macron, l'importance, et d'ailleurs pendant toute sa campagne, l'importance de la mobilité, de faciliter les mobilités.
Je pense en tout cas qu'on commence à prendre conscience, y compris au plus haut niveau de l'État, qu'en 50 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, la géographie de la France a complètement été bouleversée. À un tel point que nous sommes dans une situation, alors là, qu'on ne constate pratiquement pas dans d'autres pays européens, en tout cas avec la même intensité, c'est qu'il y a une sorte de déconnexion entre les mots que nous utilisons et l'imaginaire qu'ils portent d'ailleurs, hein, le mot campagne, le mot rural, le mot ville, le mot centre, une déconnexion entre les mots.
Et souvent vous reprend d'ailleurs, hein, voilà. Les gens quand on est là, quand on est dans un territoire rural, ils protestent,
ah bah non, pas du tout. C'est pas si vrai que ça. C'est un bourre, et les réalités concrètes, si je puis dire, qu'on a à observer. Et cette déconnexion, elle est amusante, mais elle est aussi problématique, parce que par ailleurs, on continue d'utiliser les grandes orgues des imaginaires territoriaux classiques. Cet après-midi au Sénat, c'était la ruralité, la ruralité, la
ruralité. Mais la ruralité, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Il y a des ruralités. Elles n'ont pas grand-chose à voir, les ruralités de près de Romans-sur-Isère, ou dans le Nord-Pas-de-Calais, ou dans la Marne. Il y a des ruralités, et les ruralités, elles sont aussi fonction du type d'acteurs qu'on va retrouver sur place. Et Florence Aubenas le dit très bien, ça dépend beaucoup des systèmes de mobilité qui vont amener sur place ou enlever de ce surplace des individus, des entreprises, des structures, des associations, des potentialités. Donc il y a pratiquement autant de territoires qu'il y a de situations. Évidemment, notre État ne peut pas comprendre ça. Et nos collectivités territoriales non plus, parce que nous sommes dans le pays qui a érigé...
Pourtant, on pourrait penser que les collectivités territoriales sont au plus proche de cette réalité.
Non, parce que les collectivités territoriales, elles sont faites sur le modèle... chaque commune, François Hollande l'avait dit, la commune, c'est la petite république dans la grande. C'est-à-dire, chaque commune, en quelque sorte, est pétrie de l'idéal jacobin, normatif, réglementaire. Il faut admettre aujourd'hui que les espaces français sont des espaces... mosaïque, mais avec un S, et d'une mosaïque pour laquelle nous n'avons pas de plan d'ensemble. Il n'y a pas de dessin d'ensemble. Et il faut partir de cela, plutôt que de se lamenter. Il faut partir de cela, constater les difficultés. Elles sont réelles, les difficultés, Florence Oblin vient de les dire. Elles sont d'ailleurs contradictoires. C'est-à-dire, du même coup, on reproche l'abandon. Et il est vrai que la perte d'un certain nombre de services publics dans un pays qui a été biberonné aux services publics, la perte d'un service public de proximité, mais c'est l'équivalent d'une déflagration industrielle lorsqu'une industrie manufacturière disparaît de Saint-Étienne ou du nord de Pas-de-Calais. Et puis dans le même temps, les gens, dans la même phrase, vous dites « Et puis on en a marre aussi que l'État parle pour nous. » On en a marre d'être la marionnette du ventriloque, c'est-à-dire on en a aussi... assez qu'on nous impose des normes, des cadres, des contraintes, qu'on ne nous prenne pas au sérieux, qu'on ne reconnaisse pas nos capacités d'initiative. Et là aussi, il y a une spécificité française. Un assemblage de citoyens qui va voir un élu local et qui dit « Moi, je veux inventer une manière de produire un nouveau jardin partagé, de le gérer collectivement. » Mais ça va être un dangereux gauchiste. On va le considérer comme quelqu'un qui va faire voler en éclats le pacte républicain, alors même qu'il est peut-être en train d'inventer une manière nouvelle de produire du commun à partir de ce que nous partageons le plus encore, c'est l'espace de vie.
Christophe Chevalier, ce que vient de dire Michel Lussault en parlant notamment d'ultra-jacobinisme en France, c'est ce contre quoi veut lutter l'actuel gouvernement et le président de la République, qui a parlé de conclure des pactes girondins, donc opposé au pacte jacobin manifestement survient à l'histoire de la Révolution française très présente définitivement ce soir. Et est-ce que vous, Christophe Chevalier, vous avez le sentiment d'être contraint justement en tant que chef d'entreprise ou dans vos initiatives pour les start-up, est-ce que c'est ce que vous appelez de vos voeux, une approche peut-être plus contractuelle avec l'État, moins verticale?
En tout cas, il y a des choses qui commencent à changer. Effectivement, on attend d'un État qui soit un État stratège et pas simplement un État qui construit des lois qui sont vécues en réalité par les entreprises comme des obstacles de plus en plus compliqués. Et c'est vrai que quand on regarde un certain nombre d'obligations que doivent respecter les entreprises, ça devient de plus en plus compliqué. Avant, une fiche de paie, ça faisait 3 ou 4 lignes. Aujourd'hui, ça fait fréquemment 2 pages. Il y a sans arrêt, quand l'État essaye de réfléchir pour simplifier les dispositifs, en principe, il crée un serpent en plus sans enlever ceux d'avant.
Et si on reste sur le thème des territoires, justement, est-ce qu'il y a une simplification territoriale à votre avis, ou peut-être une façon de libéraliser un petit peu les choses qui trouveraient grâce à vos yeux, Christophe Chevalier?
Moi, je pense qu'effectivement, il faut simplifier un certain nombre de choses dans le fonctionnement des entreprises, parce qu'aujourd'hui, une entreprise, une PME, c'est-à-dire une PME dans un bassin comme Romans-Valence, c'est 4, 5, 6 salariés. Une PME a les mêmes obligations qu'une grande entreprise cotée qu'une grande entreprise cotée ou pas loin, et qu'aujourd'hui, c'est un vrai obstacle pour se développer et pour entreprendre. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il y a un vrai mouvement aujourd'hui de coopération au niveau des entreprises. C'est-à-dire que moi, sur le territoire, je m'aperçois qu'il y a une dizaine d'années, il y avait des associations de chefs d'entreprise, mais que la plupart du temps, C'était des associations professionnelles, donc liées à un secteur d'activité. Et aujourd'hui, il y a une évolution très forte, c'est qu'il y a quasiment partout des associations qui sont liées au territoire, c'est-à-dire des associations généralistes qui réfléchissent à la manière dont elles peuvent mettre en place une crèche d'entreprise, créer un CE inter-entreprise pour leurs salariés, etc. Et c'est cette nouvelle manière de travailler des entreprises qui pourrait être un peu plus entendue. Je vous donne qu'un exemple. Aujourd'hui, on fait de la défiscalisation assez facilement quand on fait de l'innovation technologique, c'est rentré dans les mœurs. Mais quand des entreprises font de l'innovation sociale, c'est-à-dire inventent des rapports entre eux différents, ça crée de l'emploi aussi, ça se développe, mais on n'a pas le droit, ou beaucoup plus difficilement, au crédit impôt recherche.
France Culture, du grain à moudre, Raphaël Bourgois.
Et on parle ce soir de la conférence des territoires. Les territoires peuvent-ils nous sauver, avec trois invités, la journaliste Florence Omna, le géographe Michel Lusseau et le président du groupe Archer, Christophe Chevalier, qui est en duplex depuis France Bleu, Drôme, Ardèche, donc à Valence. On remercie évidemment les équipes de France Bleu de vous accueillir. C'est ce que vient de dire Christophe Chevalier. J'aimerais vous entendre peut-être, Michel Lusseau ou Florence Omna, sur cette question. C'est intéressant, c'est la question de la coopération. Et justement, dans la conférence telle qu'elle s'est déroulée aujourd'hui, en tout cas dans les plans tels qu'ils sont dessinés par le gouvernement, il y a cette idée peut-être de mettre un peu plus en concurrence aussi les territoires, les régions, les départements, que sais-je. Je ne sais pas quelle est la bonne échelle pour en parler. Et est-ce que finalement l'échelon national, c'était pas aussi, Michel Lusseau, la garantie d'une meilleure péréquation, d'une meilleure répartition, d'une meilleure solidarité? Vous avez l'air d'en douter, mais on a le sentiment que ça pourrait être peut-être le cas. En tout cas, c'était comme ça que c'était pensé.
Oui, c'était comme ça que c'était pensé. Il n'y a pas à revenir sur l'idée que c'est ce que l'on voulait produire. On a en revanche toute capacité de constater qu'il n'en a rien été. Et que si l'État avait été un État absolument régulateur, protégeant tout le monde et garant des égalités, il y a tellement de contre-exemples qu'on finit par se demander pourquoi on y croit encore. Alors personnellement, je n'y crois plus. Il n'y a qu'à regarder en matière scolaire, en matière d'accès aux services de santé. Tout cela a été pris en charge par l'État depuis des décennies. On a l'impression que les inégalités continuent de croître. Donc moi, je ne pense plus aujourd'hui qu'on puisse faire appel à un État qui serait omnipotent et juge en toute situation. En revanche, l'État doit être régulateur. En fait, on n'a jamais posé une question difficile en France. Et c'est pour ça que moi, ça m'agace un peu aussi qu'on parle de Jacobins et de Girondins, même si, comme tout le monde, je le fais, parce que c'est renvoyé à une réalité historique qui devient complètement anachronique, donc inopérante. La vraie question qu'on a à se poser, c'est quels sont les niveaux de solidarité territoriale que nous jugeons aujourd'hui pertinents compte tenu de ce qu'est la France. C'est-à-dire, en prenant un vocabulaire plus conceptuel, quelles sont les échelles de la justice spatiale que nous considérons comme pertinentes en France? Dans certains cas, pour certains sujets, ça va être l'État. D'ailleurs, je ferai remarquer une chose. Pour certains sujets, c'est sans doute même plus l'État, c'est sans doute l'Europe qu'il faudrait considérer comme le niveau d'échelle pertinent, voire au-delà, si l'on prend toutes les questions liées au changement global.
Mais si on parle par exemple de la couverture de l'Internet à haut débit, puisque c'était un sujet cet après-midi.
La couverture de l'Internet à haut débit, il faut regarder très précisément au cas par cas comment les choses peuvent être pensées. Et moi, je plaide pour une sorte d'agence de diagnostic des territoires qui soit un lieu de réunion de toutes les parties prenantes et pas simplement du mano à mano entre l'État et les collectivités. Moi, j'en ai assez de ce jeu de rôle. Je pense que tous les citoyens ont des choses à dire là-dessus. Je ne sais pas, organisons un panel de citoyens par tirage au sort. Réfléchissons à cela. Mettons en place les conditions pour que dans les régions, on en discute. Et nous verrons bien pour chaque cas ce qui est le plus adapté. Mais accepterons-nous en France qu'à une question, différents territoires apportent des réponses différentes. Accepterons-nous
que l'exemple de... c'est l'inégalité dans la tête.
Oui,
des,
mais justement, la différence, ça n'est pas l'inégalité. À partir du moment où ce que l'on vise, c'est justement la possibilité pour chacun de faire valoir sa voix. Ce qui a été fait à Romans-sur-Isère autour de l'industrie de la chaussure ne doit pas être considéré comme un modèle universel. C'est un exemple significatif de ce qu'il est possible de faire. On peut observer, réfléchir, méditer, tenter de comprendre ce que ça signifie, mais si on veut le dupliquer de façon uniforme sur le territoire national, je peux vous dire déjà que ça sera un échec, parce que les écosystèmes territoriaux ne sont pas les mêmes.
Avant de donner justement la parole à Christophe Chevalier, Florence Aubenas, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit.
Oui, c'est vrai que le rapport à l'État, il est complexe. C'est-à-dire que pendant longtemps, les Français avaient le sentiment que l'État était généreux avec la grande ville comme avec le petit village. C'est-à-dire le petit village avait sa poste, sa gare, son école, et il y avait une espèce de norme française où il y avait justement ces services publics décrochés de la rentabilité. Hein, c'était un service public au sens plein du terme. Le fait que des gares ferment, que des gens se couchent sur les voies pour que le train continue à s'y arrêter, que la poste continue à être là ou pas là, enfin tout cet ensemble-là est vu comme un État qui se retire et qui ne donne qu'aux gros, qu'aux riches et qu'en fonction de ce que ça rapporte. Donc, il y a quand même quelque chose de très différent. Et l'autre chose, c'est que ne vient plus de cet État qui n'est plus généreux et égalitaire, ne vient plus que la contrainte. Et donc, il faut faire l'accès aux handicapés, et c'est très bien, mais dans notre mairie, on n'a pas les moyens, c'est encore nous qui avons à payer, etc. etc. Et c'est vrai que ce changement de statut de l'État à l'intérieur du territoire, il est très fort et très important. Et donc, je pense qu'il faut faire le deuil d'un État qui met une gare dans chaque commune, en tout cas, le deuil est fait, mais le rôle de l'État, s'il a quelque chose à faire, c'est à dire qu'est-ce qu'il veut faire à l'intérieur du pays. Quel est son rôle ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est effectivement égalitaire avec tout le monde ? Quel est le service minimum de cet État par rapport à chaque petite commune ?
Mais ça, c'est vrai que c'est aussi une question politique. Michel Lussault, je vous laisse la parole parce que vous devez nous quitter un peu avant la fin de l'émission.
Oui, je crois que ce que Florence Aubenas vient de dire est tout à fait important. Et c'est lié aussi au fait qu'il y a une sorte de dissonance cognitive entre le fait que lorsqu'on parle service public, lorsqu'on parle territoire, on parle de justice entre les territoires, on parle d'équité, on parle de communs spatiaux, on parle de vie au quotidien, on parle d'accès aux biens élémentaires, on parle d'épanouissement des individus. Et de l'autre côté, on a depuis 30 ans une politique de gestion des services publics qui a privilégié l'efficience managériale et financière. Regardez chaque rapport de la Cour des comptes. Moi, je n'ai rien contre la Cour des comptes, mais enfin, ça devient véritablement un problème de fond de considérer qu'à chaque rapport de la Cour des comptes, en lisant ce rapport, on se demande si les magistrats croient encore au service public non rentable et non efficient dans les termes de l'efficacité managériale qui serait d'ailleurs très singulièrement à nuancer. Il y a cette sorte de dissonance et on n'en sort pas. Parce que globalement, qu'est-ce que demandent beaucoup de gens dans les territoires ? Et pas simplement les territoires ruraux. Quand vous allez en Seine-Saint-Denis, quand vous allez dans l'Est lyonnais, tout près des centres métropolitains, on a aussi des demandes parce qu'il y a aussi des sentiments d'abandon quand on est dans le 9-3 ou qu'on est dans l'Est. On demande tout simplement des services publics de qualité et de proximité.
Je rebondis très rapidement, et c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui qu'un service public n'était pas, ou la poste, puisqu'on parle de ça, ne servait pas simplement à vendre des timbres ou distribuer des lettres. Vous avez tous vu, on a tous vu Hérite, cette pub à la télé, un jeune facteur vient aider une vieille dame.
Et donc, c'est un service payant, il y a eu une émission du Grain à Moudre là-dessus récemment.
Bien sûr, mais ça veut dire, et ça dit, qu'un service public n'est pas simplement un service marchand de vendre un timbre ou de ne pas le vendre. Qui a une relation humaine, qui a une... Et ça, c'est extrêmement important. Et ce retrait de l'État...
Mais il faut aussi combattre notre culpe. Un service public, comme vous venez de le décrire, Florence, ça n'est pas non plus forcément un service gratuit. C'est-à-dire, ça n'est pas sans coût. C'est-à-dire, nous aussi, en tant que citoyens, nous sommes parfois trop peu responsables par rapport à nos services publics que nous voudrions universels, de qualité et gratuits. Et ça, peut-être que ça n'est pas possible aujourd'hui non plus.
Peut-être, mais c'est de ça dont il faut parler, en tout cas.
Alors, Christophe Chevalier, vous avez un désavantage dans cette discussion, c'est que vous êtes à Valence. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, Florence Aubenas et Michel Lussault échangent les arguments. Vous êtes un peu loin, mais je vais quand même vous donner la parole pour les quelques minutes qui restent dans l'émission. Est-ce que selon vous, ce qui vient d'être dit correspond à la réalité que vous connaissez, notamment cette idée évoquée par Michel Lussault, selon laquelle il y a des exemples, mais qu'on ne peut pas les dupliquer. Voilà, il y a des exemples qui marchent à certains endroits, mais qu'on ne peut pas les dupliquer de la même façon sur tous les territoires.
Oui, je crois qu'il a tout à fait raison, Michel Lussault. les méthodes pour essayer de faire renaître la chaussure à Romans. Et puis, de toute façon, la capitale de la chaussure de luxe, c'est à Romans, et ça peut pas se dupliquer forcément ailleurs. Il y a quelque chose qui est en commun. Moi, j'étais à Figeac la semaine dernière, j'étais à Roubaix il y a pas longtemps, à Strasbourg, où on travaille justement cette question de la mobilisation des territoires. Et il y a quelque chose en commun entre nous, alors que les enjeux économiques sont complètement différents, c'est pas la même agriculture, c'est pas la même industrie. Cette chose en commun, c'est cette volonté de parier sur le développement endogène, de pas, pour le dire plus simplement, de pas tout attendre d'en haut et de penser qu'ensemble on peut prendre notre destinée un petit peu en main. Et ce que je constate dans l'ensemble de ces territoires qui sont extrêmement différents, c'est que quand on travaille cette posture-là, ça crée de la résilience. Et moi, je crois que c'est beaucoup plus difficile, quel que soit le taux de chômage et le PIB, de vivre dans un territoire quand on est isolé et quand, ensemble, on essaye de se relever les manches et de faire face, justement, aux difficultés.
Et ça marche évidemment mieux. Vous ne craignez pas, justement, c'était un peu l'enjeu de la discussion entre Florence Omna et Michel Lussault. Vous ressentez pas la crainte d'une forme d'inégalité, justement, entre les territoires, de voir des territoires délaissés au profit d'autres, cette passer par l'initiative locale, finalement, ça prévient de cette dérive?
Non, mais je crois que ça suffit pas. Nous, on pense que on doit à la fois se mobiliser sur les territoires, mais on a besoin de l'État, d'un État régalien aussi, et notamment qui peut jouer un rôle dans la disparité économique et sociale des territoires, et qui peut parfois mettre en place des mécanismes de solidarité. Moi, je pense, par exemple, que la fiscalité peut jouer un rôle important là-dedans. Pourquoi le CICE est le même niveau pour l'ensemble des territoires et quels que soient les secteurs d'activité sur lesquels on travaille? Moi, je pense qu'à travers le CICE, c'est un exemple en termes de fiscalité, l'État peut décider de rééquilibrer un certain nombre de choses et surtout, il peut expliquer quelle est sa politique et ce qu'il veut demain pour ses territoires et pour la France.
Et bien voilà, nous avons nous-mêmes rééquilibré les temps de parole, Christophe Chevalier, en vous laissant développer ce dernier point. Merci à vous d'avoir été en direct depuis France Bleu Drôme Ardèche, donc à Valence. Merci aussi à Florence Omna et à Michel Lussault d'avoir participé à cette conversation. Toutes les références vous concernant seront sur notre page du Grain à Moudre d'été. Merci à Pierre Testard, Daphné Abgral, Camille Ferré, Cédric Fuentes et Juliette Monti qui m'ont aidé à préparer cette émission. À la réalisation, c'était Anne Despelchin ce soir. À la prise de son, Édouard Rubinstein à Paris, Damien Marsala à France Bleu, Drôme, Ardèche.